Leçon 3. Du 9 au 15 avril. Caïn et son héritage. Samedi après-midi. Verset à mémoriser. Si tu as agi bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. Genèse 4 au verset 7. Dans Genèse, ce qui vient juste après la chute et l'expulsion d'Adam et Ève de l'Éden, ce sont principalement des naissances et des morts, tout cela en accomplissement des prophéties de Dieu dans le chapitre précédent. Chapitres parallèles, Genèse 3 et 4, contiennent de nombreux thèmes et mots en commun. Description du péché, Genèse 3 verset 6 à 8 et Genèse 4 verset 8. Malédiction du sol, Adama, Genèse 3 verset 17, voir Genèse 4 verset 11 et l'expulsion, Genèse 3 verset 24, voir Genèse 4 verset 12 et 16. Ces parallèles servent à souligner l'accomplissement de ce qui s'est produit auparavant, les prophéties et les prédictions que Dieu avait faites à Adam et Ève après la chute. Le premier événement qui suit l'expulsion d'Adam est plein d'espoir. C'est la naissance du premier fils, un événement qu'Ève considère comme l'accomplissement de la promesse qu'elle a attendue dans la prophétie messianique, Genèse 3, verset 15. En d'autres termes, elle pensait que cet enfant pouvait être le Messie promis. Les événements suivants, le crime de Caïn, le crime de Lémec, l'espérance de vie qui diminue et la méchanceté qui augmente, sont tous des accomplissements de la malédiction prononcée dans Genèse 3. Et pourtant, même à ce moment-là, tout espoir n'est pas perdu. Dimanche 10 avril, Caïn et Abel. Lisez Genèse 4, versets 1 et 2. Qu'apprenons-nous de ce passage sur la naissance des deux garçons? Le premier événement rapporté par l'auteur biblique juste après l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden est une naissance. Dans l'expression en hébreu, dans Genèse 4, au verset 1, le mot « le Seigneur » Adonai sont directement liés au mot « un homme » comme l'indique la traduction littérale juive. « J'ai acquis un homme, en effet, le Seigneur lui-même. » Cette traduction littérale indique qu'Ève se souvient de la prophétie messianique de Genèse 3 au verset 15 et qu'elle croit qu'elle a donné naissance à son Sauveur, le Seigneur. La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Et les noix de Jésus-Christ, page 23. En fait, Caïn occupe la majeure partie de l'histoire. Il est non seulement le premier-né, un fils que les parents adoraient presque, mais dans le chapitre, il est le seul frère qui, dans le texte de Genèse, parle. Tandis qu'Ève commence avec enthousiasme la naissance de Caïn, elle ne dit rien alors de celle d'Abel, ou du moins le texte ne rapporte rien, contrairement à la naissance de Caïn. Le narrateur rapporte simplement qu'elle mit encore au monde. Genèse 4, verset 2. Le nom Caïn lui-même vient du verbe hébreu kana, qui signifie acquérir, et dénote donc l'acquisition, la possession de quelque chose de précieux et de puissant. D'un autre côté, le mot hébreu Ebel, en français Abel, signifie vapeur ou respiration et dénote le caractère évasif, le vide, le manque de substance. Le mot Abel est employé à de multiples reprises dans Ecclésias pour vanité. Nous ne voulons pas aller plus loin dans notre lecture que ce que ces cours textes disent vraiment. Mais l'idée est peut-être que l'espérance d'Adam et Ève reposait, croyait-il, en Caïn, car il croyait que c'était lui le Messie promis et non son frère. Quelles sont les choses de la vie qui, vraiment, sont Ebel, mais que nous traitons comme si elles étaient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont? Pourquoi est-il déterminant de faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Lundi 11 avril, les deux offrandes. Le contraste entre Caïn et Abel, comme le reflète leur nom, ne se situait pas uniquement sur le plan de leur personnalité. Ils se manifestaient également dans leurs occupations respectives. Tandis que Caïn était cultivateur, Genèse 4, verset 2, un métier qui exigeait un travail physique difficile. Abel était berger de petit bétail. Genèse 4, verset 2. Un métier qui impliquait sensibilité et compassion. Caïn produisait les produits de la terre. Abel gardait les moutons. Ces deux occupations expliquent non seulement la nature de deux offrandes, des fruits de la terre pour Caïn et un mouton pour Abel, mais elles expliquent aussi les deux attitudes et mentalités associées aux deux offrandes. Caïn travaillait pour acquérir le fruit qu'il produirait, tandis qu'Abel faisait attention de garder les moutons qu'il avait reçus. Lisez Genèse 4 au verset 1 à 5 et Hébreux 11 au verset 4. Pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel et rejeté l'offrande de Caïn? Comment comprendre ce qui s'est produit à ce moment-là? Sans aspersion de sang, il ne pouvait y avoir de rémission de péché. Et Caïn et Abel devaient manifester leur foi dans le sang du Christ comme expiation promise en offrant au premier-né du troupeau en sacrifice. En plus de cela, ils devaient présenter les premiers fruits de la terre au Seigneur en offrande d'action de grâce. Ellen White, Patriarche et prophète, page 71. Tandis qu'Abel se conforma aux instructions de Dieu et offrit l'offrande végétale en plus de l'holocauste, Caïn négligea de faire de même. Il n'apporta pas d'animal pour le sacrifice, mais seulement une offrande du fruit de la terre. C'était un acte de désobéissance, contrairement à l'attitude de son frère. Cette histoire est souvent considérée comme un cas classique du salut par la foi. Abel et son offrande de sang, contrairement à une tentative de gagner le salut par les œuvres, Caïn et ses fruits de la terre. Ces offrandes devaient une signification spirituelle, mais elles n'avaient pas en elles une valeur magnifique. Il s'agissait toujours de simples symboles, d'images renvoyant au Dieu qui avait assuré aux pécheurs non seulement sa subsistance, mais aussi sa rédemption. Lisez Michée 6 au verset 7 et Michée 1 au verset 11. Comment peut-on prendre le principe présent dans ces versets et l'appliquer à nos vies et à notre adoration? Mardi 12 avril, le crime. Lisez Genèse 4 au verset 3 à 8. Quel est le processus qui a conduit Caïn à tuer son frère? Voir également 1 Jean 3 au verset 12. La réaction de Caïn est double. Caïn fut très fâché et se renfrogna. Genèse 4 au verset 5. La colère de Caïn, semble-t-il, était dirigée contre Dieu et contre Abel. Caïn était fâché contre Dieu et parce qu'il pensait qu'il était victime d'injustice et il était fâché contre Abel parce qu'il était jaloux de son frère. Jaloux de quoi? Juste de l'offrande? Assurément, il devait se passer beaucoup plus de choses en coulisses que ce que ces quelques textes nous disent. Quels que soient les enjeux, Caïn était déprimé parce que son offrande n'avait pas été acceptée. Les deux questions de Dieu dans Genèse 4 au verset 6 sont liées à deux conditions de Caïn. Notez que Dieu n'accuse pas Caïn comme avec Adam. Dieu se pose des questions, non parce qu'il ne connaît pas les réponses, mais parce qu'il veut que Caïn se regarde dans le miroir et comprenne la raison de sa propre condition. Comme toujours, le Seigneur cherche à racheter son peuple déchu, même si ce dernier le déçoit ouvertement. Ensuite, après avoir posé ces questions, Dieu conseille Caïn. D'abord, Dieu exhorte Caïn à agir bien, comme il le faut. C'est un appel à la repentance et à changer d'attitude. Dieu promet à Caïn qu'il sera accepté et pardonné. En un sens, il est en train de dire que Caïn peut avoir l'acceptation de Dieu, mais qu'elle doit se faire aux conditions de Dieu et non pas à celles de Caïn. D'un autre côté, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Genèse 4, verset 7. Le conseil de Dieu révèle la nature du péché qui se trouve en Caïn lui-même. Ici, à nouveau, Dieu donne un conseil à Caïn en cherchant à le guider dans la voie qu'il doit suivre. Le deuxième conseil de Dieu concerne l'attitude à adopter envers le péché qui est tapis à la porte et dont le désir se porte vers toi. Dieu recommande la maîtrise de soi, à toi de le dominer. Le même principe résonne chez Jacques, comme il explique que chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Jacques 1 au verset 14. L'Évangile nous offre la promesse non seulement du pardon pour le péché, mais également de la victoire sur le péché. En définitive, Caïn n'avait personne d'autre que lui-même à accuser pour son péché. N'est-ce pas aussi généralement le cas pour nous? Que nous enseigne cette triste histoire sur le libre arbitre et sur le fait que Dieu ne nous force pas à obéir. Mercredi 13 avril, le châtiment de Caïn. Lisez Genèse 4 au verset 9 à 16. Pourquoi Dieu demande-t-il à Caïn, où est Abel ton frère? Quel est le rapport entre le péché de Caïn et le fait qu'il devienne errant et vagabond sur la terre? Genèse 4 au verset 12. La question que Dieu pose à Caïn fait écho à la question qu'il a posée à Adam en Éden, où es-tu? Cet écho indique le lien entre le péché en Éden et ce péché maintenant. Le dernier péché, celui de Caïn, était la conséquence du premier, celui d'Adam. Caïn, cependant, ne voulait pas reconnaître son péché. Il le nie, quelque chose qu'Adam n'avait pas fait, même s'il avait tenté d'accuser quelqu'un d'autre. Caïn, a contrario, défie ouvertement Dieu, lequel ne perd pas de temps à le mettre face à son crime. Quand Dieu pose la troisième question, « Qu'as-tu fait ?», il n'attend pas de réponse. Il rappelle à Caïn qu'il sait tout, car la voix du sang d'Abel lui est parvenue depuis le sol. Genèse 4, verset 10. Image qui signifie que Dieu est au courant du meurtre et qu'il ne va pas rester sans réaction. Abel est dans le sol, lien direct qui renvoie à la chute et à ce que le Seigneur avait dit à Adam. Genèse 3, au verset 19. Lisez Genèse 4, au verset 14. Que signifient les paroles de Caïn? Je serai caché de devant ta face. Darby, c'est parce que le sang d'Abel a été répandu sur le sol que le sol est de nouveau maudit. Genèse 4, verset 12. Par conséquent, Caïn est alors condamné à devenir un réfugié loin de Dieu. Ce n'est que quand Caïn entend la sentence de Dieu qu'il reconnaît l'importance de la présence de Dieu. Car sans elle, il craint pour sa vie. Même devant le meurtre de sang-froid de Caïn et son attitude de défi devant l'évidence, le Seigneur lui manifeste encore de la miséricorde, et même si Caïn se retira de devant le Seigneur lui assura tout de même une certaine protection. Nous ne savons pas ce qu'était exactement cette marque. Genèse 4, verset 15, parole de vie. Mais quoi qu'il en soit, elle n'était là que par la grâce de Dieu envers lui. Caché de devant ta face, Genèse 4 au verset 14, Darby, qu'est-ce qui est caché de la face de Dieu? Quelle situation tragique pour quiconque! Quelle est la seule manière pour nous qui sommes pécheurs d'éviter cette situation? Jeudi 14 avril, la méchanceté de l'homme. Lisez Genèse 4 au verset 17 à 24. Quel était le message de Caïn et en quoi le crime de Caïn a-t-il ouvert la voie à l'augmentation de la méchanceté de l'humanité? L'arrière-petit-fils de Caïn, Lémec, fait référence au crime de Caïn dans le contexte de son propre crime. Cette comparaison entre le crime de Caïn et celui de Lémec est instructive. Tandis que Caïn garde le silence sur son unique crime, Lémec semble se vanter du sien en l'exprimant dans un chant, Genèse 4, versets 23 et 24. Tandis que Caïn demande la miséricorde de Dieu, le texte ne rapporte pas que Lémec l'a fait. Tandis que Caïn est vengé sept fois par Dieu, Lémec croit qu'il sera vengé 77 fois, voir Genèse 4, verset 24. Indice qu'il est tout à fait conscient de sa culpabilité. De plus, Caïn est monogame. Genèse 4, verset 17. Lémec introduit la polygamie car la Bible dit spécifiquement qu'il prit deux femmes. Genèse 4, verset 19. Cette intensification et exaltation du mal aura un impact certain sur les générations qui suivront. Juste après cet épisode du mal dans la famille de Caïn, le texte biblique rapporte un nouvel événement qui s'oppose à cette tendance. Adam connut encore sa femme. Genèse 4, verset 25, et un enfant naît de cette union, qu'Ève nomme Seth, pour indiquer que Dieu a donné une autre descendance à la place d'Abel. En réalité, l'histoire du nom de Seth précède Abel. Le nom Seth vient du verbe Achit, je mettrai, Genèse 3, au verset 15, qui introduit la prophétie messianique. La descendance messianique passera par la lignée sétite. Le texte biblique donne ensuite l'historique de la lignée messianique en commençant par Seth, Genèse 5 au verset 3, en incluant Enoch, Genèse 5 verset 21, Métichéla et en terminant par Noé, Genèse 6 au verset 8. L'expression « fils de Dieu », Genèse 6 au verset 2, fait référence à la lignée de Seth, car ils sont destinés à préserver l'image de Dieu, Genèse 1 au verset 4. D'autre part, l'expression « les fils des humains » semble avoir une connotation péjorative avec une opposition entre la descendance de ceux qui sont à l'image de Dieu et celle de ceux qui sont à l'image des hommes. Et c'est sous l'influence de ces filles, des humains, que les fils de Dieu prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Ce qui indique la mauvaise direction dans laquelle allait l'humanité. Lisez Genèse 6 au verset 1 à 5. Quel puissant témoignage de la corruption du péché. Pourquoi devons-nous faire tout ce que nous pouvons par la puissance de Dieu pour éradiquer le péché de nos vies? Vendredi 15 avril. Pour aller plus loin, l'expression répétée « Enoch marcha avec Dieu » Genèse 5 au verset 22 et 24 indique une compagnie intime et quotidienne avec Dieu. La relation personnelle d'Enoch avec Dieu était tellement spéciale que Dieu le prit. Genèse 5 au verset 24. Cette dernière phrase est cependant unique dans la généalogie d'Adam et ne corrobore pas l'idée d'une vie immédiate au paradis pour ceux qui marchent avec Dieu. Remarquez que Noé marchait aussi avec Dieu, Genèse 6 au verset 9, et il mourut comme tous les êtres humains, y compris Adam et Méthusalem. Il est également intéressant de noter qu'aucune raison n'est donnée pour justifier cette grâce spéciale. Prédicateur de la justice, Enoch faisait connaître ses révélations à son entourage. Ceux qui aimaient Dieu se rendaient auprès de cet homme pour bénéficier de ses instructions et de ses prières, mais sa prédication ne se limitait pas aux seuls enfants de Seth. Élargissant le cercle de ses auditeurs, il parlait de son message à tous ceux qui voulaient l'écouter. Dans le pays même où Caïn avait voulu fuir loin de la divine présence, le prophète de Dieu fit connaître des scènes terribles aperçues en vision. « Voici, disait-il, que le Seigneur est venu avec ses cinq myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises. » Ellen White, Patriarche et Prophète, page 63. À méditer, pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? Lisez ce commentaire d'Elie Wiesel. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Peut-être qu'il voulait rester seul, un fils unique, et après la mort de ses parents, le seul homme? Seul comme Dieu, et peut-être seul à la place de Dieu, Caïn a tué pour devenir Dieu. Tout homme qui se prend pour Dieu finit par assassiner les autres. Elie Wiesel, Messengers of God, Portrait and Legend. New York, Random House, 1976, page 58. Comment faire attention, même si nous ne commettons pas de meurtre, à ne pas refléter l'attitude de Caïn? Comparer l'espérance de vie des antédiluviens, Genèse 5, à celle des patriarches. Comment expliquer cette diminution? En quoi cette dégénérescence s'oppose-t-elle aux hypothèses du darwinisme moderne?